c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Bonjour et bienvenue sur RLP 102.3 dans le Périgord. Aujourd'hui, RLP Business, émission 116 depuis nos studios. RLP Business, on va parler activité économique, entrepreneuriat, autonomie, comment se mettre à son compte, comment s'occuper de ses clients, comment monter une affaire qui marque une ville, comment gérer ses produits, construire sa marque, avoir un parcours international. Aujourd'hui, on parle de pasta et salsa. Vous l'avez tous vu sur le cours montagne. Entre le tribunal et la BNP, on mange sur place, on emporte, mais derrière tout ça, il y a Frédéric Godefroy. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-moi, on va commencer tout simplement, là. Qui est Frédéric Godefroy? Comment on se retrouve à Périgueux? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous êtes qui? Dites-nous.
Alors, Frédéric Godefroy est un passionné avant tout de la vie. C'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui a toujours su se faire plaisir et apporter des choses complémentaires dans le domaine qui était mon premier secteur, les arts de la table. J'ai été directeur commercial pour une grande porcelaine des Houillères, le groupe des Houillères, où j'ai énormément accompagné de très très grands chefs, les grands pontes de la cuisine, la gastronomie française, telle qu'elle se poursuivait dans les années 80-90. Jusqu'à mon arrivée dans la région du Périgord, où j'ai découvert et je me suis, positionné dans une restauration typiquement italienne. Alors, typiquement italienne parce que j'ai des origines aussi italiennes, j'ai des origines basques, italiennes, mais j'ai énormément voyagé sur l'Italie. Alors, je dis toujours que l'Italie, pour moi, n'a aucun secret. J'ai de la famille dans la région du Piémont, à Ponte di Nava, à Santena.
C'est quelle équipe de foot là-bas?
Ah, c'est Torino.
Ah bah oui. C'est pas la Juventus, c'est le Torino.
C'est Torino. Voilà, donc c'est vrai que le foot parle énormément, bien sûr, en Italie.
En Italie, c'est important. Vous êtes né à Turin?
Alors, je ne suis pas né à Turin, je suis né au Pays Basque.
D'accord. Vous êtes né au Pays Basque de parents italiens, c'est ça?
Alors, de famille, oui, du côté de mon papa, qui ont des souches italiennes dans le Piémont, et une maman, non, qui est originaire du centre de la France, de l'Auvergne. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'ai vécu un petit peu sur les deux territoires, le territoire du Pays Basque et le territoire italien. D'accord. Où je passais régulièrement, bien sûr, des moments de vacances, d'accompagnement dans les activités de mon papa.
D'accord.
Qui était lui-même aussi dans le domaine de l'équipement des arts de table.
Il était à son compte aussi.
Il avait une entreprise qui était sur Bayeux.
Ok, donc vous avez grandi France-Italie.
Oui.
Vous avez ensuite vécu un peu en Italie.
Alors, je n'ai pas vécu en Italie, j'y suis retourné pour mes activités dans le cadre, je dirais, d'accompagnement de certains grands chefs italiens à l'époque pour la porcelaine des Houillères. Mm-hmm. J'étais en accompagnement très souvent, je peux vous le dire, avec M. Paul Bocuse, qui était pour moi quelqu'un que j'appréciais énormément et que j'ai accompagné à l'encontre de grands, grands chefs comme M. Pierre Gagnère, Gérard Boyer, Michel Guérard, enfin ces chefs qui ont marqué la gastronomie de l'époque et que j'ai côtoyé, bien sûr, pendant de nombreuses années.
L'art de la table, tout ça, ça a toujours été présent?
Toujours.
Vous avez toujours voulu faire ça?
Toujours, tout simplement parce que en remontant dans ma famille... j'ai un père qui était maître verrier. Il avait sa verrerie qui était dans le Berry à Vierzon à l'époque. Et j'ai un autre grand-père qui était industriel. Alors lui, dans la biscotte, fondateur des biscottes Pelletier. Les biscottes Pelletier, donc c'était dans l'Aisne.
Ça dit quelque chose, ça.
Biscottes Pelletier, le pain grillé Pelletier, qui a été créé par Monsieur Henri Bourlon.
D'accord, qui était votre grand-père.
Voilà, mon grand-père.
D'accord, ok. Des études particulières ou vous avez travaillé tout de suite?
Non, j'ai travaillé tout de suite. J'ai pas été vraiment très assidu, scolarisé correctement.
School of life.
School of life, oui. C'est quelque chose, en fin de compte, qu'il a fallu de façon suivre jusqu'à un minimum. Je me suis engagé dans l'armée, précisément très tôt. À 17 ans et demi, je suis rentré.
Armée française ou italienne?
Non, armée française.
Armée française.
Armée française au 1er PMA à Bayonne, principalement.
Okay.
Et donc, j'ai fait un service de 18 mois et sorti de ce service militaire, je suis rentré dans l'entreprise familiale de mon papa.
Vous avez voyagé un petit peu là, hors pays image. J'ai un ami qui a été à Toulouse. Oui,
alors moi j'étais dans les périodes en fin de compte de la 83-10, comme on dit toujours quand on se présente dans l'armée. J'ai fait un service traditionnel, mais un service un petit peu plus long parce que c'était mon souhait.
Vous avez sauté en parachute?
J'ai fait mes sauts en parachute, oui, tout à fait.
Jamais fait ça, moi. respect, monsieur, respect, voilà.
J'ai fait ça parce que c'était quelque chose en fin de compte. quand vous avez fait une partie de votre enfance au Pays Basque, vous aviez le premier PMA qui était en point de mire, qui était la citadelle, et c'était quelque chose, en fin de compte, sur lequel on souhaitait tous un petit peu se frotter.
Ok. J'essaie de décrypter un petit peu tout. Vous avez travaillé de manière professionnelle en Italie ?
Non. Alors, j'ai fait que de l'accompagnement, j'ai fait de la création pour certains chefs et des distributeurs. La porcelaine que j'ai représentée était à Chevigny, dans la Vienne. Nous avions aussi une production d'Aura en Haute-Vienne, et nous avions aussi une production qui était la porcelaine de Sologne, qui était du côté de Vierzon.
Votre papa a entrepris, lui par contre en Italie, vous m'avez dit.
Alors, mon papa a entrepris, oui, parce qu'il avait bien sûr automatiquement des connaissances de certains distributeurs et grands chefs italiens. Bon, nous avions des maisons à l'époque qu'il équipait, que ce soit dans le domaine des arts de table, c'était de la verrerie, c'était ouvert, c'était porcelaine, c'était l'équipement en règle générale, mais ces activités ont été principalement faites dans la région du Pays Basque. On a gardé uniquement des contacts dans le cadre professionnel, et c'est pour lequel nous allions en déplacement, mais tout simplement parce que les salons... Le gros salon se faisait de toute façon à Milan, en règle générale. Okay. C'était le salon de l'ameublement, et c'était quelque chose que je faisais régulièrement avec mon père. Mais ça, c'était le début de mes activités. Mais ensuite, j'ai monté à la capitale.
Et là, vous avez appris à parler aux gens. Quand on fait les salons, on est confronté au public.
Ah bon, on est confronté au public, on est confronté à une clientèle internationale, donc c'est une chose auxquelles j'ai beaucoup appris. Ça a été un petit peu un accompagnement très enrichissant d'accompagner, son papa dans ce domaine d'activité. Voilà. Et je me suis frotter un petit peu à tout type de clients.
Et donc, là, le fait de devenir entrepreneur, la première création de société.
Alors, pour revenir maintenant sur l'activité actuelle, celui qui m'a donné un petit peu la puce à l'oreille, c'est M. Pierre Gagné, que j'ai beaucoup apprécié comme grand chef.
D'accord.
C'est le plus grand chef pour ma part, sur le nombre en cumul d'étoiles actuelles, et par ses pairs un petit peu de la profession, c'est le plus grand chef au monde à l'heure actuelle. Bon, Pierre Gagné, moi je l'ai connu à Saint-Étienne, je l'ai connu à Paris, je l'ai suivi... en Angleterre, je l'ai suivi à Dubaï, je l'ai suivi sur différents établissements pour lesquels je suis allé à Dubaï. D'accord. Avec Pierre Gagnère, oui, tout à fait, sur l'équipement précisément de la table pour la porcelaine des ouïes.
D'accord. Et donc, Pasta et Salsa à Périgueux, c'est votre première entreprise ?
Alors, c'est ma première entreprise. J'ai été salarié avant pendant 23 ans.
D'accord.
Et Pasta et Salsa, en fin de compte, alors Pasta et Salsa était une enseigne avant qui s'appelait Nouille, alors qui se prononçait Nouille et qui s'écrivait N2OITREMAR.
D'accord.
Ça, c'était une franchise de la restauration italienne. Parce que dans l'équipement que je faisais auparavant, j'allais régulièrement aussi en Alsace. Les fondateurs de Nouille, c'était M. Franck Rim et Eric Senet, qui étaient fondateurs et que je connaissais depuis de nombreuses années par rapport à la restauration, les différents types d'établissements qu'ils avaient, dont une marque qui leur est bien à eux, c'est Flams, la restauration de Flams. Flams.
Oui.
Donc, ils avaient créé l'enseigne Nouille. Moi, je m'en suis rapproché à ce moment-là. C'était en 2007, lors d'un salon de la franchise. J'ai dit, tiens, Franck Rim et Eric Senet sont là-bas, je vais aller les rencontrer parce qu'on se connaissait d'auparavant par rapport à nos activités. Et ils m'ont dit, tiens, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et puis voilà, de fil en aiguille, j'en suis venu à me dire, moi, ça m'intéresse de développer éventuellement Nouille avec vous. Mm-hmm. Donc, on a fait un développement ensemble. J'ai pu ouvrir plusieurs établissements, dont trois ici dans la région. Et en parallèle, avec un partenaire, j'ai ouvert deux autres établissements sur Bordeaux, voilà, que je n'ai plus actuellement. J'ai gardé uniquement l'activité sur le cours Montaigne initialement de ce que l'on disait depuis la création janvier 2009 et je suis toujours en place avec un changement de nom puisque Nouille n'existe plus. J'avais racheté avec d'autres partenaires la marque Nouille, l'enseigne Nouille, qui n'existe plus à l'heure actuelle et pour lesquelles cela nous avait permis d'entretenir toujours cette activité de restauration italienne de pâtes, mais sous l'aspect d'une franchise. J'ai abandonné l'aspect de la franchise et j'ai créé ma propre marque, Pasta et Salsa, que j'ai déposée d'ailleurs. Voilà.
Oui. Alors, on a discuté un petit peu parce que on s'est rencontrés avant l'interview de temps en temps. Vous avez donc, vous faites la gestion de ce restaurant. On verra après ce que vous apportez comme spécificité. Mais j'ai cru comprendre que vous avez aussi des choses qui se déroulent en Italie. Vous créez vos propres produits. Vous avez une marque. Vous exploitez votre marque. Tout ceci, c'est bien plus qu'un petit restaurant avenue Courmontaigne. Racontez-nous un petit peu tout
Alors,
ça.
Alors, Courmontaigne, en fin de compte, pasta et salsa, ça a été le déclic, tout simplement parce que j'ai de la famille en Italie, comme je disais initialement. dans la région du Piémont, qui sont producteurs de pâtes, et pour lesquels je me suis dit, en approche avec eux, pourquoi on ne viendrait pas à développer éventuellement la gastronomie sur des sauces. Voilà, donc on a créé notre propre marque qui s'appelle Le Comptoir d'Italie. C'est une micro-entreprise qui appartient à mon épouse actuellement, qui est en activité d'ailleurs avec moi dans la restauration chez Stay Salsa.
On va saluer madame.
Voilà, ainsi que madame Claudia.
Voilà.
C'est très aimable à vous. Et donc, nous avons monté Le Comptoir d'Italie il y a 5 ans et nous travaillons en parallèle automatiquement avec ses proches qui, eux, sont au contact des producteurs italiens du Piémont. Alors, la particularité de ces sauces, c'est que je travaille sur du 100% naturel. Voilà, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'exhausteur de goût. C'est de la stérilisation au niveau des sauces et je travaille qu'avec des producteurs italiens. Donc, on est vraiment sur une valeur honnête et bonne sur la réalisation et le goût de mes sauces italiennes. C'est comme si nous les mangions de toute façon à table en Italie, de la même manière.
Vous pouvez le garantir parce que vous avez pris la main en fait sur vos fournisseurs, vous êtes devenu votre propre fournisseur afin d'être certain de ce que vous aviez comme ingrédient pour préparation.
Tout à fait.
D'accord.
C'est quelque chose en fin de compte qui me tenait à cœur. J'ai vu les changements qui s'opéraient de toute façon dans la restauration avec le général. Tristement, je ne trouve pas que malheureusement on aille sur des bons choix en termes de restauration.
Oui, parce qu'on va, le dire, vous avez aussi un côté vente à emporter, un restaurant sur place. On peut avoir peur de la restauration rapide avec éventuellement toute mauvaise image qu'on en a, la grande distribution, la franchise, des trucs surgelés qui arrivent sur palette et tout. Et vous avez vraiment créé vos ingrédients et vous avez la main mise sur vos ingrédients.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Puis on essaye un petit peu d'avoir des particularités un petit peu au niveau des pâtes. Mmh. On travaille des sortes de pâtes, je dirais qu'on retrouve pas dans le commerce très facilement. Ce sont des pâtes suivant des origines de Toscane ou du Piémont et l'accompagnement de certaines sauces s'accorde à merveille avec.
Alors, chez vous, il y a effectivement la cuisine qui a été travaillée, les ingrédients et autres. Mais quand on regarde bien, il y a un gros travail qui a été fait aussi sur le marketing, sur les offres, sur la mise en place, sur la présentation, sur le visuel. Ça, c'est la franchise Noy qui vous a apporté ça ou c'est votre pâte à vous, ça?
Alors, la franchise Nouille, au départ, m'a apporté des choses complémentaires que je ne connaissais pas, spécialement dans la restauration. J'étais de l'autre côté pendant 23 ans dans l'accompagnement, j'irais de l'ensemble de ces chefs. J'accompagnais les distributeurs, donc j'étais au contact un petit peu des métiers de bouche depuis de nombreuses années. La seule chose qui me manquait, c'était peut-être la gestion en interne, diriger des équipes de restauration. Lorsque j'ai eu plusieurs établissements, je suis monté jusqu'à 43 salariés sur l'ensemble de mes établissements.
Bon, ça, c'est le management, vous aviez une base de management déjà. Tout
à fait. Oui, ouais. J'étais dans l'accompagnement, donc le management, l'organisation, ça c'est quelque chose que je connaissais, mais je ne le connaissais pas sous la forme de la restauration, qu'il a fallu un peu...
Et le faire pour soi, c'est très différent
le faire pour soi,
de manager les gens des autres, quand on est responsable, on est cadre quelque part, ou lorsque c'est les nôtres, nos employés, parce que c'est nous qui les nourrissons, qui ont les fiches de paye, et c'est pas du tout la même posture et le même rapport, c'est pas le même outil du tout.
Enfin voilà, donc nous, il m'a apporté aussi énormément, m'a apporté cette complémentarité que je n'avais pas initialement. Et nous, quand c'est arrivé en janvier 2009, on a démarré très fort, mais très fort sur 15 ans, 16 ans d'activité, avec des queues, j'irais, habituelles sur le devant. Et automatiquement, on a toujours cherché à améliorer le service, l'emporter, le service sur place. Donc il y a eu des changements au départ. Quand j'ai ouvert nous, on n'était que sur des cups. On mangeait aussi bien à l'intérieur que sur l'emporter dans les cups, qui étaient des cups cartonnés, qui étaient marqués nouilles à l'époque. Bon, et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il fallait aussi évoluer. Le problème des emballages, le problème de la pollution de toute façon par l'ensemble, ces emballages qui étaient utilisés par les clients. Donc, je suis venu petit à petit apporter aussi un service à l'assiette, avec des couverts, avec des verres, directement sur place, avec un service un petit peu plus traditionnel de la restauration.
Qu'est-ce qui a fait que vous, après avoir côtoyé des grands chefs de cuisine, vous n'avez pas ouvert un restaurant traditionnel, mais que vous avez fait quelque chose qui se situe à mi-chemin entre la restauration, la vente à emporter, la restauration rapide? Vous êtes au croisement de plusieurs niches, on va dire.
Oui, alors bon, tout simplement parce que je n'ai pas la formation initialement de la restauration, d'un restaurateur. À l'époque, on passait par un CAP, on passait par un BEP, on passe par un bac professionnel de la restauration. Ça, c'est une formation de base, ce qui malheureusement, je dirais, n'est pas ancré chez tout le monde. Mais je n'avais pas cette formation. Par contre, j'avais la formation commerciale. J'avais la formation de la mise en avant des produits, de la qualité, de la recherche et de la mise en avant, bien sûr, des produits de qualité. Ça, ça a toujours été un petit peu ce que j'ai recherché dans mes activités antérieures et maintenant. Et petit à petit, on est venu à améliorer de toute façon aussi bien, comme je vous le disais, le service, aussi bien, je dirais, la qualité des produits qu'on utilise et pour donner satisfaction aussi bien sur une consommation sur place que sur à l'emporter. On a exactement la même qualité de toute façon, si on emporte un plat, décliné sous différentes tailles automatiquement.
Bien sûr.
Avec un choix de pâtes, on a 15 sortes de pâtes, on a 15 sortes de sauces. C'est quelque chose qui est disponible rapidement. On fait un service qui est très rapide. Le client, quand passe sa commande, jusqu'au moment où il est servi, c'est à peu près 40 à 50 secondes. On est très, très rapide dans l'organisation.
Ben oui, parce que les gens qui sont devant vous, ils ont faim.
Ils ont faim, tout à fait.
Ils veulent manger. Et surtout qu'ils savent pourquoi ils viennent. Et puis, il n'y a pas que des pâtes. Alors, on va dire, chez vous, on vient, il y a des offres. Il y a des offres, ça change suivant la taille. Il y a un système on peut demander des garnitures, on peut demander des suppléments. Donc, vous avez découpé le plat, en fait, en plusieurs catégories de produits. Qu'on va assembler ensemble.
Qui se décompose, oui.
Qui se décompose. Donc, au final, il y a quoi? Il y a une quinzaine ou une vingtaine de possibilités de croisements?
Il y a beaucoup de possibilités, mais on essaye de trouver des accords à ce moment-là.
Il y a une partie conseil.
Voilà, il y a un conseil de toute façon qui est apporté par mon épouse et moi-même. Et puis, c'est quelque chose de toute façon que j'apprécie à avoir. Au niveau de l'association, j'irai de certaines sauces par rapport au type de pâtes. les extras ou l'accompagnement de légumes ou de tomates confites. Il y a des choses sur lesquelles on peut, bien sûr, les apposer dans l'accompagnement plus facilement.
Ok. Alors, il n'y a pas que les pâtes, il y a aussi les desserts.
Alors, les desserts, oui. Et puis, on fait aussi des pâtes au four, on fait des pâtes gratinées. On fait aussi du risotto. Le risotto, comme on le mange en Italie, avec une base très crémeuse aux quatre fromages, ou avec des sauces bien particulières comme la poulet, champignons et crème que nous avons, qui reste très apprécié de toute façon dans l'accompagnement des risotto, et sur lequel on y ajoute après le piano reggiano. Ça, c'est obligatoire. Comme fromage. On ne peut pas passer sur autre chose. Enfin, c'est le conseil que je donne initialement.
Ça y est, j'ai faim.
Bon, et vous vouliez parler de dessert, mais bien sûr que les desserts.
Mais oui, parce qu'il y a du sucre en plus.
Les desserts, on a toujours eu cette particularité de faire nos propres tiramisu. Les tiramisu, on les décline.
Voilà, c'est là que je voulais aller. C'est que là aussi, vous avez la maîtrise de votre production, de ce que vous présentez.
Tout à fait.
Ce n'est pas des choses que vous achetez pour les revendre, c'est vous qui les faites.
C'est important. C'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. J'ai eu avec moi les équipes que j'ai formées précisément sur la fabrication, la présentation des tiramisu. Et tiramisu, c'est moi qui les fais tous les matins. Et je les décline sous différentes compositions.
Ok. Frédéric Godefroy, de Pasta et Salsa. Dites-moi, vous êtes un sacré bosseur quand même. Parce que vous démarrez tôt, vous finissez tard, vous travaillez quand les autres se reposent et mangent, vous n'arrêtez pas de parler pour expliquer aux gens ce qui est bien pour eux, ce qui est bon à mettre dans leur assiette et autres, et vous marchez à la Wonder, là, comme un ancien Marseillais.
C'est le plaisir, l'échange.
Vous faites combien d'heures par semaine, là, quand même
que... Alors, le plus haut que j'ai pu monter, c'était 70 heures. Je ne fais plus 70 heures.
On va le dire.
Voilà,
dirigeant de PME, travailler à son compte, c'est une posture qui est particulière. Vous avez mis vos économies, je suppose, dans votre commerce, et c'est lui qui financera votre retraite. Et vous y passez 70 heures par semaine. Ce n'est pas la même approche du travail que quelqu'un qui va aller être serveur ici ou là.
Il y a un investissement de façon qui est quand même très important.
Oui.
Bon, de toute façon, on ne s'arrête jamais. On pense toujours à améliorer automatiquement ou à travailler certains produits ou à rechercher. Donc, quand je suis sorti du contexte de mon restaurant, je suis toujours en recherche et je suis en échange avec, de toute façon, mes Italiens sur l'élaboration de d'autres sauces. Voilà. On a une multitude de possibilités. Je suis aussi dans la distribution commerciale de mes propres sauces. Je travaille avec des distributeurs italiens sur la distribution auprès de métiers de bouche dans d'autres régions. Et en Dordogne, je suis en contact avec certains restaurateurs qui souhaitent bien sûr acquérir automatiquement nos sauces parce qu'elles sont travaillées en stérilisation. Elles ont une DLUO qui va très loin et comme je le disais initialement, elles sont bonnes et saines pour la santé.
D'accord.
Et ça, c'est très important.
Pasta et salsa, donc...
Pâte et sauce.
Depuis, vous m'avez dit 2009, c'est ça?
Alors, janvier 2009.
Voilà, donc on est à 17 ans.
Oui.
Si vous aviez voulu faire une franchise, vous l'auriez déjà fait.
Oui, c'est vrai.
Je pense.
C'est quelque chose qui m'était venu à l'idée. Et puis, moi qui ai connu la franchise initialement, j'ai souhaité plutôt laisser la possibilité à certaines personnes, soit dans le cadre d'une reconversion avec un accompagnement et une formation, soit dans le cadre éventuellement de gens qui sont attirés par la cuisine italienne telle que je la décline actuellement depuis 17 ans, avec des bons produits. Donc, c'est quelque chose que je sais faire en termes d'accompagnement. Mais je n'ai pas voulu recréer une franchise.
Les sociétés, vos fournisseurs en Italie, ce sont des sociétés que vous avez créées aussi ?
Non, ils ont une société de production au niveau des pâtes.
D'accord.
Voilà. Donc, on a apporté automatiquement, la connaissance et l'utilisation de certaines sauces que j'avais à l'époque de nouilles, mais simplement, on les a retravaillées façon italienne avec des produits, comme je disais,
d'accord,
des producteurs italiens.
Ok. On est sur quelqu'un qui est dans un secteur d'activité qui a toujours été plus ou moins le sien, la table, les métiers de bouche et autres. Se mettre à son compte, on a vu, c'est beaucoup plus d'heures. C'est aussi un investissement personnel à tous les niveaux. Expliquez-nous, là, devenir entrepreneur, ça signifie quoi ? Expliquez aux jeunes l'avantage, l'inconvénient.
Alors moi, ça a été un choix un petit peu qui a été bousculé. C'est-à-dire qu'à 43 ans, j'ai rencontré un problème de santé, longue maladie, qui m'a permis un petit peu de revoir un peu le positionnement dans mes années de toucher par une paralysie, neuromusculaire qui s'appelle le syndrome du Barré à 43 ans.
Donc,
il m'a fallu...
Pour un ancien parachutiste,
voilà, quelques années pour un ancien parachutiste qui ne pratique plus d'ailleurs les sauts.
Oui, mais je veux dire, c'est quand même, vous avez fait du sport, on ne peut plus bouger durant un certain temps, ça a dû être quelque chose.
On n'a plus les mêmes mouvements, ni la même facilité dans les gestes ou dans les activités sportives, même si je pratique toujours de façon certaines activités sportives. Parce qu'en étant au Pays Basque, j'en ai fait beaucoup de sport.
La pelote.
Alors, j'ai fait de la pelote, mais j'ai fait les sports de glisse. J'ai fait sport-études quand j'étais jeune.
D'accord.
J'ai fait sport-études, j'ai fait de la descente de ski. J'ai fait de la descente de ski, j'ai été 4 ans en Haute-Savoie, à Saint-Gervais-les-Bains, et en étant aux Pays-Bas, bien sûr, on démarre très tôt par le skateboard et on finit par le surf. Donc, à 13 ans, j'étais sur une planche de surf.
Bien sûr.
Et j'ai passé des heures dans l'eau. Donc, automatiquement, les sports de glisse, j'en ai pratiqué énormément.
Oui.
Et j'aimais un petit peu ces sensations. C'est pour ça que d'être parti aux premières Pays-Bas, ça a été quelque chose de complémentaire. Et j'ai beaucoup apprécié automatiquement la rigueur, mais surtout un petit peu le côté sensationnel, je dirais.
Et donc, si vous aviez devant vous un jeune ou vos enfants et autres, vous leur diriez « Allez, petit scarabée, tu vas monter ton affaire, mais ça veut dire ça. » Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il faut avoir de la rigueur, il faut avoir avant tout de toute façon une bonne organisation par soi-même. Il faut avoir envie quand on se lève de toute façon d'être en permanence dans la découverte de quelque chose, dans la transmission, dans le plaisir. Le plaisir. Je prends tous les jours du plaisir.
Les impôts, les règles, les taxes, l'administration.
Ça, c'est quelque chose de très lourd en France.
Voilà. Il faut aussi le dire aux gens. Qu'est-ce qui fait que... Bon, là, on en parle régulièrement.
C'est le bas blesse de la profession, malheureusement, c'est qu'elle est envahie de taxes et de surcharges administratives.
Et de réglementations.
Qui sont très lourdes.
Et de réglementations, de règles, d'obligations qui changent régulièrement, de contraintes et autres. Mais donc, pour pouvoir supporter ça, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire dans la balance parce qu'on ne remplit pas des formulaires d'URSSAF, on ne reçoit pas les inspecteurs en permanence, s'il n'y a pas quelque chose qui nous pousse, qui nous porte, qui nous fait vivre.
L'intérêt principal, de toute façon, comme tout restaurateur, toute personne qui se trouve dans les métiers de bouche, c'est d'avoir le plaisir de recevoir et d'accompagner un client. De le sentir heureux, je dirais, sur le court instant qu'on va lui donner, lui apporter, et d'avoir un petit peu une satisfaction quand il s'en va en disant « J'aurais pas pensé en mangeant dans une petite trattoria avoir un produit de cette qualité-là et je reviendrai avec grand plaisir. » Ça fait 17 ans.
C'est une surprise. C'est
17 ans que les clients me le disent, 17 ans, parce que vous savez que la moyenne des restaurations en France, sur la durée de vie, c'est 4 à 5 ans.
Mmh.
Voilà. Donc, j'ai largement dépassé un petit peu cette date, je dirais, qui est donnée dans la profession. Bon, il y a des familles, je dirais, heureusement, qui sont dans la tradition des métiers de bouche depuis très longtemps et qui poursuivent très agréablement ce métier-là. Bon, et ça, il faut les accompagner, il faut les aider. Il faut au mieux, je dirais, comprendre ce que peut être vraiment le métier de la restauration, le métier d'accompagnement. Donc, pour tout jeune qui veut vraiment se lancer là-dedans, dans cette activité-là, c'est la volonté personnelle. personne. C'est la volonté, comme dans tous les domaines d'activité professionnelle. Quand on a de la volonté, on arrive au bout à découvrir quelque chose, je dirais, qui nous passionne et pour lequel on va apporter ce moment de plaisir au consommateur. Ça, c'est important.
Je n'ai pas posé la question, là, on est en fin d'émission, j'ai oublié de la poser. Vous avez combien de salariés actuellement ?
Alors, je suis monté, maintenant, j'ai une structure qui est différente. Maintenant, je termine mes activités avec l'épouse, j'ai 60 ans, je termine mes activités tous les deux en faisant le service du... Donc, mes horaires ont changé, mais par contre, je pars beaucoup plus souvent en Italie, je me rends un petit peu plus disponible sur certaines périodes, mais je travaille plus qu'à deux avec mon épouse.
D'accord.
Voilà. Parce que très prochainement, j'aurai la possibilité de prendre ma retraite, mais je ne m'arrête pas. Je n'arrête pas mon restaurant, il se poursuit de toute façon par moi et mon épouse du lundi au samedi.
C'est la question que j'allais poser, et pasta et salsa, c'est amené à être revendu, ou c'est ça qui va vous payer votre retraite ? Vous l'envisagez comment ?
Alors, payer la retraite, vous savez, maintenant, la revente d'un restaurant, ça reste quand même très compliqué, que j'avais testé vraiment, et c'est quelque chose que j'ai retiré, parce que j'étais assez déçu un peu des personnes qui pouvaient vendre se présenter.
On ne donne pas pasta et salsa à n'importe qui.
Non, hein, c'est ça, je souhaitais avoir quelqu'un qui soit en phase, je dirais, comme je l'ai toujours été, et d'avoir la continuité sur le plaisir et la qualité des produits. C'est hyper important. C'est ce que je recherche avant tout.
Bon, moi, c'est bien. Je suis très, très content d'avoir pu vous interroger parce que lorsqu'on passe devant votre shop, votre office, lorsqu'on y rentre, on ne s'attend pas à trouver ce qu'on y trouve. Et puis, au bout de toutes ces années, vous êtes quand même une personne personnalité de Périgueux, un commerce de Périgueux, donc c'est bien de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Il y a des nouveautés au pasta et salsa, vous prévoyez des nouvelles choses, des nouveaux menus, des nouvelles offres, enfin, par exemple, dans 6 mois, 1 an, ça va rester comme c'est, ça tourne bien, ou on va améliorer encore certaines petites choses ?
Non, il y aura de l'élaboration de nouvelles sauces qui vont arriver de toute façon, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille en permanence,
d'accord.
Donc on est sans limite un petit peu là-dessus.
Ah, et puis chez vous, c'est welcome pour les végétariens. Hein,
donc, oui, on a la possibilité, absolument, bien sûr, de répondre aussi pour les végétariens. De toute façon, il n'y a aucun problème.
Ok. Bon, eh bien, Frédéric Godefroy, merci beaucoup. On vous trouve Cour Montaigne.
Merci beaucoup.
On vous trouve aussi sur Uber, parce qu'il y a la livraison aussi à domicile, me semble-t-il. Et puis, je sais que vous êtes très, très pris. Je vais vous laisser repartir vos activités. Merci, Monsieur Godefroy.
Merci beaucoup.
Et
au plaisir. Au revoir.
À la semaine prochaine, la suite des programmes sur RLP.
RLP Business.
Radio Libre en Périgord.